Cette marche partie de Marseille le 16 octobre pour arriver à Paris le 3 décembre, place de la Bastille. Cette marche veut avant tout dénoncer tous les crimes et agressions racistes, tous les domaines de la vie sociale où s'instaure la discrimination. Oui, nous marchons pour manifester qu'il y a en France un peuple nombreux.
La marche a servi à décomplexer une génération entière sur ses droits sociaux et ses droits politiques.
2008. Des enfants de l'immigration et des petits-enfants de l'immigration se retrouvent à une place sociale inférieure à celle des immigrés.
Il y a un certain nombre de personnes qui se sont fait des petites carrières individuelles sur le dos de leur quartier, sur le dos de leurs origines. Alors certains en criminalisant leurs origines, tout ça pourquoi ? Pour avoir la bénédiction du maître et être dans le salon. Moi je préfère être dans la cave et me battre jusqu'à faire péter l'immeuble s'il le faut et ne pas me prostituer pour aller m'asseoir à la table de la République.
Depuis la marche pour l'égalité contre le racisme en 83, aux marches du 8 mai des indigènes aujourd'hui, de SOS Racisme à Ni Pute Ni Soumise, des rodéos des Minguettes aux révoltes des quartiers de novembre 2005, des assises de la banlieue en 84 au Forum social des quartiers populaires en 2006, voici 25 ans de marche et de lutte dans les quartiers et toujours pas d'égalité. Un documentaire d'une heure sur les mouvements militants issus de l'immigration.
1983.
Notre sécurité interne est donc menacée par le déferlement continu d'une immigration désormais planétaire, c'est-à-dire multiculturelle.
2008.
Personne n'est obligé, je répète, d'habiter en France. Mais quand on habite en France, on respecte ses règles. On n'est pas polygame, on ne pratique pas l'excision sur ses filles, on n'égorge pas le mouton dans son appartement.
1983, 2008.
25 ans de marche et toujours pas d'égalité.
25 ans de marche et toujours pas d'égalité.
Bonjour, je suis Cynthia Mara. J'ai un parcours de militante, on peut même dire entre guillemets d'ancien combattante. Voilà.
Vous n'êtes pas la cousine de Fadela du coup ?
Non, dans tous les sens du terme, j'ai rien à voir.
Ça commence donc avec une rencontre. Salika Amara, ancienne combattante des mouvements associatifs issus des gens de l'immigration, qui sort un livre intitulé « L'impasse de la République » dans lequel elle retrace son enfance pendant la guerre d'Algérie. Je la rencontre dans ce cadre-là. Et c'est elle qui va m'emmener sur l'histoire des mouvements associatifs et militants issus des quartiers populaires.
On a monté notre association. C'était la première association de jeunes issus de l'immigration qui s'appelle l'ANGI, qui veut dire Association de la Nouvelle Génération. Immigrés, nouvelle génération par rapport à seconde génération qui était vue en temps toujours sous la forme de délinquance, et puis immigrés parce que nous étions issus d'immigration et on ne voulait pas non plus perdre de vue nos racines. Et on était partis avec l'idée de changer les mentalités parce que nous étions parfaitement intégrés, mais c'est le regard de l'autre qui ne nous intégrait pas et que l'intégration c'était un mouvement nécessairement réciproque. Pour ce faire, on a monté une galerie d'art qui s'appelle Artaud, qui existe toujours, qui a pignon sur rue, donc à Aubervilliers. On a mis en place des universités d'été. On a travaillé au sein des prisons, notamment à Bois d'Arcy, où on montait des concerts. Et puis en 83, bien évidemment, on s'est investi également au niveau de la marche.
La marche, c'est la marche des beurs. Enfin, la marche pour l'égalité contre le racisme. Car même si aujourd'hui, dans les médias, on l'appelle la marche des beurs, ceux qui l'ont fait, cette marche, comme Farid Lawa, sont pas d'accord sur l'appellation qu'on lui a donnée.
La sémantique a son importance puisque elle détermine la mémoire et la mémoire détermine l'histoire. Donc les mots appellent les mots M-A-U-X. Voilà. Donc attention. Moi le seul beurre que je connais c'est celui que je mets sur une tartine de pain avec un bon bout de fromage. La marche pour l'égalité contre le racisme n'était pas une marche que de maghrébins. Elle était une marche d'une partie de la population qui se sentait exclue et en particulier sa jeunesse. Sa jeunesse, celle qui vivait dans les villes.
Le mot beurre, c'était une manière de...
Abdelali Ajat.
De catégoriser les enfants de l'immigration dans une logique d'opposition.
Sociologue des Minguettes.
Pour vraiment caricaturer, l'idée c'était qu'il y avait des travers immigrés qui étaient musulmans, voire intégristes, inassimilables, etc. Et puis des beurs qui étaient français, qui avaient toujours vécu en France, qui connaissaient peu de choses de leur pays d'origine, qui étaient assimilés, qui n'étaient pas très religieux, etc. Donc il y a une construction médiatique de cette opposition-là, à laquelle la marche a été prise sans à l'insu de son plein gré, comme dirait l'autre.
À l'insu de son plein gré. C'est un peu l'idée qui va revenir durant ces 25 ans de lutte et durant cette heure de documentaire. Mais revenons à l'histoire de Salika Amara. Elle et son association, la NGI, reçoivent un courrier en 1983 en provenance des Minguettes, à Lyon. Un courrier dans lequel des jeunes annoncent leur intention de marcher à travers la France pour dénoncer le racisme et réclamer l'égalité.
Je pense que c'est un courrier que beaucoup de gens ont reçu, et pas seulement des gens dans le tissu associatif. Hein. Donc quand on a lu le courrier, d'abord on a vu que c'était des jeunes, de cité. Des jeunes qui étaient quand même mis à la vindicte publique, hein, puisque avant qu'il y ait cette marche, on parlait des Minguettes, on parlait des rodéos. Quand on a vécu en cité, moi je savais ce que c'était qu'un rodéo, tous les jeunes ont fait ça.
C'était les rodéos des Minguettes.
Abdelaziz Chambi.
Tout le monde en a entendu parler, évidemment.
Militant des quartiers lyonnais.
Alors, et c'est vrai que nous, on entendait parler, on le vivait comme une sorte de cri légitime de révolte, et d'autres le vivaient comme la cinquième colonne, comme les enfants de Fellouz, enfin, on avait toute la génération de la guerre d'Algérie qui voyait dans ces gamins-là ceux qui allaient mettre la République en danger, je ne sais quoi encore, quoi, et tout un tas de fantasmes comme ça, sécuritaire.
Le 23 mars 83, une descente de police aux Minguettes dégénère en affrontement violent. Pour déjouer l'état de siège qui s'ensuit, 11 jeunes, parmi lesquels Toumi Djedja, lancent une grève de la faim et créent l'association SOS Avenir Minguettes. Leur objectif, l'arrêt de la guerre privée avec la police et la réhabilitation sociale et urbaine de leur quartier.
On est donc au début des années 80. Ça commence à flamber dans les quartiers. Les premières révoltes et les fameux rodéos qui font encore aujourd'hui la réputation des Minguettes, ce quartier de Vénissieux de la banlieue lyonnaise. Mais ces révoltes ont des causes et des conséquences. Et dans les causes comme dans les conséquences, il y a la répression policière. En réaction, les jeunes des Minguettes décident de s'organiser pacifiquement autour de Toumi Djedja, blessé par une balle de la police, qui deviendra le symbole de la marche pour l'égalité. Cette bande des Minguettes est soutenue, ou influencée selon les interprétations, par la CIMADE, ou encore par Christian Delorme, le fameux curé des Minguettes. En octobre 83, ces jeunes, avec l'aide de militants, partent de Marseille pour traverser la France, et ils vont représenter toute la jeunesse des quartiers, et ces quartiers, partout dans le pays, vont les soutenir, à l'image de Sali Amara, ou encore de Saïd Bouhamama.
Pour nous, c'était des gens qui étaient mis à l'index, exclus. Donc, on était partie prenante immédiatement du projet. Donc, qu'est-ce que l'on a fait? On a été revoir un petit peu les anciens copains donc, de Sans Frontières, de Radio Beurre. Donc, ça fait quand même presse écrite, presse orale, nous en tant qu'association. Et on a lancé quand même un appel pour les gens qui voulaient nous rejoindre. Et c'est comme ça que l'on monte le collectif jeune parisien pour l'accueil de la marche. Donc on avait un local qui était mis à disposition une fois par semaine, qui était le relais Ménilmontant dans le 20e, et on se réunissait régulièrement. Et pendant tout le trajet, c'est-à-dire à partir du moment où ils sont partis de Marseille, on avait organisé diverses actions pour parler de la marche, dire que des jeunes étaient partis de Marseille, qui traversaient la France et qu'on réclamait, tout comme eux, le droit à l'égalité de s'inscrire dans ce pays qui était le nôtre. Nos parents avaient travaillé durant les 30 glorieuses, les routes, les bâtiments, etc. Et que nous aussi, on réclamait un petit peu ce droit de vivre ici, que l'on faisait partie de la France.
J'habitais Roubaix, ville ouvrière par excellence.
Saïd Bouhamama, sociologue.
Je faisais partie de cette génération qui arrivait à l'âge adulte comme première génération de l'immigration postcoloniale. Des personnes de la région lyonnaise nous ont contactés au tout début de la marche pour nous dire qu'il y avait cette initiative qui était en train de s'organiser. Partout où l'idée de la marche est apparue, la réaction c'était « Ah mais oui, mais c'est ça qu'il fallait faire ». Donc c'est une idée qui est née dans la région lyonnaise mais qui était mûr pour apparaître partout, dans tous les endroits, dans toutes les grandes villes industrielles dans lesquelles il y avait une forte immigration essentiellement issue du Maghreb.
Alors c'est vrai que la marche est arrivée à un moment
Abdelaziz Chambi.
De l'histoire d'immigration qui était dramatique parce que moi je me rappelle les fameux crimes racistes, les tontons flingueurs, les nostalgiques de la guerre d'Algérie avaient la gâchette facile, et il y avait régulièrement, toutes les semaines pratiquement, pendant plusieurs... Il y a un listing de plus de 200 morts depuis ces années-là qui ont été tués par des tontons flingueurs, par des racistes, etc.
Des tontons flingueurs, nous dit Abdelaziz Chambi. Des crimes de beauf, comme on les appelle, qui sont souvent impunis. 20 ans après la fin de la guerre d'Algérie, le crime raciste est encore toléré dans les villes de France.
Kader de Vitry, 15 ans, tué en 1980. Gawari Ben Mohamed, tué par un CRS à Marseille en 80. Abden Bigamia, tué par un beau parlementaire en 82. Boueda Chichi, 18 ans, tué à Lyon en 82. Toufi Gouanès, 9 ans, tué par un voisin d'immeuble en 83. Zouaoui Ben El Mabrouk, tué à Paris en 84. Bardet Barka, tué à Bouanvelin en 85. La liste des victimes est terriblement longue. mais leurs familles et leurs amis sont là pour réclamer justice et sécurité.
En plus de bavures policières, en plus des traitements de la justice à deux vitesses, il y avait un petit peu la crise qui commençait à pointer son nez. Et nos parents étaient en grève déjà, commençaient à réclamer un statut égalitaire avec leurs collègues français de souche, etc. Et nous, ma génération à moi, en tout cas, on a vu nos parents trimer, on a vu comment Giscard, à l'époque, avait proposé, je crois que c'était 74, il commençait à proposer le projet de loi de 10 000 balles et casse-toi. Même un film qui a été fait, il a proposé 10 000 francs aux parents qui étaient prêts à repartir dans les pays d'origine. Donc c'est vraiment une foutaise. Les mecs, ils ont trimé pendant 30 ans, ils ont reconstruit la France après-guerre. L'économie du pays a été consolidée grâce à eux. Après, on leur dit, prends 10 000 balles et rentre chez toi. Quoi. Donc, et nous, c'est des choses qui nous marquent. Quoi. C'est des marqueurs de l'histoire de l'immigration ici qui sont des temps forts et choquants. Donc, on avait tout ce contexte-là. On avait celui de nos parents donc, qui étaient, une fois qu'ils avaient été exploités, eh ben, renvoyés chez eux ou alors au chômage, etc., et en voie de garage. Ma génération, moi, qui a été orientée en grande partie vers des formations bidons, donc le contexte, c'était un contexte quand même, oui, de crise et de ras-le-bol de la part de la jeunesse qui disait, nous, on ne veut pas être traités comme ont été traités nos parents, c'est-à-dire dans l'invisibilité sociale.
Un contexte lourd des discriminations, la ghettoisation, l'impression pour cette nouvelle génération de ne pas avoir les mêmes droits, de ne pas être considéré, alors que, comme le dit Abdelaziz, le pays a été reconstruit par leurs parents. Les crimes policiers particulièrement fréquents en 83 déclenchent donc cette longue marche, marche qui mettra 3 mois pour remonter de Marseille et arriver à Paris le 3 décembre 1983.
Les jeunes immigrés des Minguettes ont gagné leur pari. 32 jeunes étaient partis le 15 octobre de Lyon pour la marche pour l'égalité et contre le racisme. Ils étaient plusieurs dizaines de milliers cet après-midi à Paris. La manifestation s'est déroulée entre la place de la Bastille et la gare Montparnasse. Georgina Dufoy, secrétaire d'État chargée de la famille et des travailleurs immigrés, leur a fait une promesse. Elle demandera au Parlement un crédit budgétaire pour les actions gouvernementales antiracistes.
Le président Mitterrand accueillera les marcheurs sur fond de nouvelles promesses.
Eh ben écoutez, en partant de Marseille, il s'est passé qu'on lance un message de paix, un message pour l'égalité et contre le racisme. On voit qu'aujourd'hui, par le nombre de personnes qui est venu, il a été entendu, et même par le président Mitterrand.
Après 3 mois de marche, c'est une véritable arrivée en apothéose à Paris. Une grande fête, 100 000 personnes défilent dans les rues au cri d'égalité des droits, de justice pour tous. C'est un succès, les marcheurs sont reçus par Mitterrand à l'Elysée. Il leur offrira la carte de résidence de 10 ans, mais ça ne les concerne pas, car eux sont français. Ça n'empêche, Toumine, symbole de la marche, est content. Ils sont sortis de l'ombre, ils ont été reçus au palais comme des enfants de la République. C'était il y a 25 ans.
La soif et puis la marche des exclus. Consulte ce qui est moche et qu'on n'en parle plus. On marche dans le topo et pas de doute. Et je rajoute, allez rajoute. On voulait juste une seconde voir nous. La sale bête qui dit on est plus chez nous. Je fais la pub pour ça, je fais même le cri. On se fout des manières, des modes et du prix. Pourvu que nos chemises à un soient réduites en éponge. On rentre torse nu, cette nuit on pourra dire nous, qu'on était présents et qu'un jour on a vu qu'on avait de bain. Là on va, nous on est chez nous, bam bam. Qu'on est goupillé ou pas, là on va, on est chez nous.
La marche est arrivée fin 83. Aujourd'hui, nous sommes en 2009. Et quand je retrouve certains protagonistes, que je rencontre les militants actuels des quartiers et qu'ils font le bilan, le constat est assez amer. À part les crimes racistes qui ont pratiquement disparu, même s'ils existent encore, la situation sociale, les discriminations, le racisme latent n'ont pas forcément évolué dans le bon sens.
La différence entre les deux périodes, c'est la dégradation de la situation.
Saïd Bouamama, sociologue.
Il y a 20 ans de discrimination qui s'installe. Il y a 20 ans où un processus global, systémique de discrimination augmente et où on va arriver aux enfants quasiment des marcheurs qui arrivent sur le marché du travail avec, pour la première fois dans l'histoire de la cité française, des enfants de l'immigration et des petits-enfants de l'immigration se retrouvent à une place sociale inférieure à celle des immigrés. Pour les Portugais, les Espagnols, toutes les immigrations antérieures, les enfants ont eu des places sociales supérieures à celles des parents. Là, en termes de destin social, il y a quelque chose qui est explosif. Alors, ça vient d'où ? Ça vient d'une part d'un héritage dans le traitement de ces populations, qui pour moi, c'est l'héritage et l'héritage colonial. Hein. On a beau être français, quand on s'appelle Mohamed, on reste un indigène. Et puis ça vient secondo de la crise économique. Comme on le sait, toute crise approfondit les inégalités. C'est-à-dire que les plus pauvres deviennent plus pauvres et les plus riches deviennent plus riches. Les 20-30 ans de restructuration, en gros, 74 à aujourd'hui, vont être des périodes dans lesquelles eh bien, les discriminations vont s'ancrer, vont se généraliser, vont se banalisé dans la société française. Et on a aujourd'hui des taux de chômage en fonction de l'origine qui peuvent varier du triple. C'est-à-dire que deux jeunes de même quartier populaire, simplement avec le critère de l'origine, vont avoir des chances d'accéder à un emploi avec le même niveau de diplôme, qui vont être différenciés et pas à la marge de manière importante. Donc voilà la différence.
Ce qui a changé aujourd'hui,
Farida Belghoul,
en pire, malheureusement,
porte-parole de la deuxième marche,
c'est que les jeunes d'aujourd'hui deviennent de plus en plus illettrés et incultes. En tant qu'enseignante depuis 15 ans, je le constate d'année en année, il y a une aggravation de cet état de fait. Le constat, c'est qu'on a 150 000 jeunes tous les ans à la rentrée qui n'ont pas d'établissement scolaire parce qu'ils sont exclus de l'école en vertu du fait qu'ils n'ont pas acquis le niveau pour aller en seconde, qu'ils n'ont pas acquis le niveau pour aller dans un lycée professionnel ou éventuellement y acquérir une formation professionnelle. Donc 150 000 jeunes, c'est un chiffre officiel, en vérité les plus élevés que ça, ce qui veut dire que sur 6 ans, ça fait 1 million de gamins de 16 ans, 17 ans qui sont dans les rues en train de faire un certain nombre de choses avec lesquelles parfois on pourrait s'inquiéter. Donc là, pour l'instant, je pense qu'il faut faire le rassemblement autour de la nécessité de les instruire et de dire que, comme moi, c'est possible, puisque moi je les connais très bien, hein, je les vois tous les jours dans ma classe, ils sont capables d'apprendre à condition qu'on les mette dans les conditions réelles pour apprendre.
On va au tribunal, par exemple,
Abdelaziz Chambi,
on écoute,
militant des quartiers lyonnais.
On voit la façon dont les juges parlent aux jeunes, la façon dont les jugements tombent, selon la couleur de peau des gens, selon la condition sociale des gens. Mais c'est flagrant. Ben ça, il y a 25 ans, et moi je ne le voyais pas comme ça. Ça existait. Il y avait par exemple, je sais pas, des bavures policières, bon, où les mecs étaient amnistiés. Il y avait des propos racistes, machin. Mais pas à ce point-là. Aujourd'hui, c'est de l'abattage, quoi. C'est de la discrimination industrielle qu'on fait dans les tribunaux. Il faut y aller, assister. Les magistrats parlent aux jeunes en fonction de leur couleur de peau. Mais je te jure, c'est flagrant. Quand c'est Olivier ou quand c'est Jean, on les parle d'une certaine façon. Quand c'est Mohamed Machin, on les parle d'une autre façon. C'est terrible.
Just 25 ans après, qu'est-ce qui a changé? Les façades, ils ont changé les façades, ils ont repeint les ascenseurs, mais c'est, tu vois, ça reste pareil, quoi.
Asdine et Abdelkader,
ça reste la même merde.
Deux jeunes des Minguettes.
Moi, une petite anecdote, un jour j'étais avec l'ami là, pareil, un contrôle de routine, bah, il a viré à la limite à la catastrophe, des coups ils se sont échangés entre jeunes et policiers.
Et je vois mon pote en train de se battre avec un flic, mais de loin, je sais pas si tu vois l'image. Il essaie de mettre une balayette à mon pote et il arrive pas. Et donc après, moi, pareil, ils me prennent et tout, ils me chargent, alors que j'avais rien à voir. Hein. Circuler, monsieur, circuler et tout. En fait, c'était mes potes qui étaient en train de se battre. Donc après, on s'est mêlés, grosse bagarre générale, machin, avec les CRS. Et le pire de tout, c'est qu'ils ils savent qu'ils sont en tort, tu vois. Ils nous ont pas embarqués, dire, tu vois, coup et tout, machin, parce qu'on en a laissé dans des sacrés états, hein, des flics, hein. Et tu vois, c'est pas ils ont porté plainte contre nous quoi que ce soit, parce qu'ils savent qu'ils étaient en tort. Donc à chaque fois qu'il y avait des bagarres, tout le monde repartait de son côté.
Une police toujours aussi violente, une justice toujours discriminante, une situation sociale qui s'est aggravée dans les quartiers. 25 ans après la marche pour la génération d'après, les marcheurs, les raisons de se révolter sont toujours les mêmes. Et pour ceux et celles qui luttent depuis toutes ces années, comme Sally Amara, le constat est assez amer.
Au bout de 30 ans, à m'échiner comme ça, c'est vrai que j'ai réalisé qu'on était toujours dans les mêmes discours. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé plus d'une fois d'être dans des réunions, de fermer les yeux, d'écouter les gens parler, que ce soit les politiques, que ce soit les intellectuels, des gens qui sont dans le milieu, qui sont entrés tardivement dans le milieu associatif, et que c'était toujours les mêmes choses. Chaque fois qu'on a voulu investir le champ politique, on a été renvoyés à nos origines. Même au dernier match de Tunisie, on a été amené à dire « Tunisien, quoi, c'est des Français, il faut oser le dire, il faut le dire, ce sont des Français ». Quand on nous met des symboles dans un gouvernement, obligatoirement, on va le ramener à ses origines, sa famille, 11 enfants, son père ouvrier, comme quoi il est possible, l'ascenseur social existe. Non, c'est pas n'importe qui, et il faut dire oui monsieur, bien monsieur, comme vous voulez monsieur, ouvrir de temps en temps, dire un mot très fort, et puis après s'excuser. C'est pas ça. Moi, au jour d'aujourd'hui, les symboles ne m'intéressent pas. Les drapeaux que l'on brandit pour être plus français que français, je suis pas dans ce contexte-là. Les Français, c'est la diversité.
On pose la question en ce moment de la diversité. Alors que la question n'est pas la question de la diversité, la question est la question de l'égalité. C'est-à-dire que si on pose le problème sous l'angle de la diversité, ça voudrait dire que dans une structure, on se dit, on va regarder si on est... il y a diverses catégories de personnes. Alors que c'est pas... La question de la diversité, elle est peut-être posée, mais c'est la question de l'identité, c'est-à-dire où sont les personnes et à quelle place. Si on pourrait revenir à des choses qui avaient été évoquées dans les années 80, c'est la question de l'égalité. En 2009, la question de l'égalité, elle n'est toujours pas posée. Si on ne pose pas les problèmes sur cette question-là de l'égalité, on va se retrouver à faire des choses qui feront plaisir à tout le monde, mais on ne se posera toujours pas la question de fond. Quoi.
Comme le dit Souraya, militante antiraciste de la région lyonnaise, la question de l'égalité soulevée par la marche de 1983 n'est plus d'actualité aujourd'hui. Le terme « diversité », très à la mode, a pris la relève. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que cette marche, qui a été un grand succès populaire, devienne en fait un échec ? Revenons le 3 décembre 1983.
Les jeunes immigrés des Minguettes ont gagné leur pari.
Partis en octobre 83 de Marseille dans l'indifférence quasi générale, la marche pour l'égalité et contre le racisme fait un tabac à son arrivée à Paris.
En partant de Marseille, il s'est passé qu'on lance un message de paix, un message pour l'égalité et contre le racisme. On voit qu'aujourd'hui, par le nombre de personnes qui est venu, il a été entendu, et même par le président Mitterrand.
Ce qui se passe après, c'est le retour dans nos quartiers avec un double sentiment. Un premier sentiment qui est le sentiment d'être une force et le sentiment d'avoir montré notre capacité de mobiliser, et donc avec une dimension d'espoir social importante. Mais aussi un second sentiment qui est en gros un sentiment de déception, mais en termes d'attentisme, puisque la seule chose très concrète qui ressort de la marche, et c'est déjà pour nous un grand pas en avant, c'est la carte de 10 ans pour les parents, ce qui était un grand pas en avant parce qu'au travers des parents, c'était notre légitimité qui était reconnue de présence sur le territoire français. Mais nous avions mis en avant un certain nombre d'autres questions, qui étaient la question des crimes racistes et du désarmement des assassins, et là-dessus n'avait avancé. Nous avions mis en avant la question des discriminations que nous commencions à subir, puisque certains d'entre nous allaient déjà sur le marché du travail. Bref, il y avait un sentiment d'attentisme qui sera vite confirmé en déception forte dans les mois et l'année qui va venir.
C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
C'était un événement qui était traumatisant.
Abdelali Ajat,
pour les marcheurs en eux-mêmes.
Sociologue des Minguettes.
Si on prend Toumi Jaïja, le fait qu'il ait été le symbole de la marche a fait qu'il y a eu un très gros ressentiment de la part de certaines autorités. On lui a ressorti une affaire qui l'a amené à sa condamnation. Il a fait la prison. Donc il a ressenti ça de manière très dure, quoi. Donc c'était très traumatisant pour lui de reparler de ces événements-là. Par exemple, il y a un gars qui s'appelle Larbi Refdi, qui faisait partie de la marche, qui est un gars de Villefranche, mais qui est inconnu. Tu vois, alors qu'il faisait partie du noyau. D'autres gens, c'est plus dramatique encore. On parle souvent du cas de Abed, qui faisait partie du noyau de la marche et qui a complètement pété un câble et qui s'est suicidé. Il y a Boujid Kara, qui vient d'Aix-en-Provence, qui a écrit le seul livre issu de la marche en elle-même, qui s'appelait La Marche, qui a disparu lui aussi. Donc, lorsque les gens se retrouvent tout d'un coup devant la scène publique, Alina, etc., et retournent dans leur quartier et que rien n'a changé, il y a beaucoup d'entre eux qui disent qu'il n'y a plus rien à faire, quoi. Donc, il y a un phénomène de repli dans la sphère individuelle et du quartier qui fait qu'il y a des gens qui ne veulent plus en parler parce qu'ils pensent que ça ne sert à rien. Il y a une certaine désillusion par rapport à l'événement en lui-même, quoi. Même si ça a pu beaucoup le rapporter.
Alors moi, ce que je voudrais quand même dire,
Salut, parce
qu'aujourd'hui, on parle de la marche comme quelque chose d'extraordinaire. Ça reste extraordinaire, ça a été une étape très très importante dans l'histoire des luttes de l'immigration. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, pour se légitimer, pour avoir une certaine forme de reconnaissance, prétendent, ou cela raconte, avoir fait partie de cette mouvance, avoir marché, etc. Alors que les véritables marcheurs sont quasi tous aujourd'hui dans l'anonymat.
À la mémoire de ceux qui sont morts pendant la marche,
Farid Lawa,
qui sont morts après la marche,
ancien marcheur,
les gens qui ont souffert, qui ont partagé un espoir, je me dis par mémoire et par respect, il y a des gens qui feraient mieux de se taire. Et je parle de Malek Boutil, qui était peut-être militant ou peut-être engagé en tant que citoyen, mais il n'a jamais pris aucune responsabilité pendant la marche. Fadela Amara, ah ben ça me fait rire. Elle était à Clermont-Ferrand, elle a peut-être participé à un comité de soutien. Ils n'ont jamais eu aucun rôle dans l'organisation de la marche, ni à l'initiative, ni dans le suivi, ni après. Enfin, à aucun moment, c'est des gens qui ne faisaient même pas partie du paysage politique de l'époque. C'est une imposture. Fadela Amara.
J'y ai participé modestement, d'une certaine manière, dans l'étape de Clermont-Ferrand.
La marche est passée à Clermont ?
Oui, il y avait des mouvements partout. Hein. Même si des fois les marches ne sont pas passées dans les villes mêmes en tant que telles, il faut savoir que partout ça a bougé dans la France. Dans toutes les villes de Clermont, vous avez eu des mouvements de jeunes de quartier issus de l'immigration qui ont organisé ou des débats publics ou des marches symboliques, d'étapes, etc. Ce que nous avons fait, nous, à Clermont-Ferrand. Et après, ça aboutit à cette grande marche. Hein.
La marche est passée à Clermont ?
Oui, il y avait des mouvements partout. Hein.
Et non, Fadela, la marche n'est pas passée à Clermont. Mais c'est vrai, Fadela, que ça bougeait partout, même à Clermont.
Il y avait des mouvements partout. Hein.
Les marcheurs, les vrais, ceux qui sont encore vivants en tout cas, sont tous, ou presque aujourd'hui, retournés dans leur quartier. Ils ont retrouvé leur anonymat et sont repartis dans un quotidien fait de précarité. Mais comme nous l'explique Saïd Bomama, le mouvement ne s'est pas éteint tout de suite. Après 83, il va même y avoir une deuxième marche en 84.
Il y a près d'un an, ils avaient entrepris de marcher à pied sur Paris. Cette fois, ils prennent leur mobylette. Les jeunes arabes de la seconde génération, les Beurs, entendent une nouvelle fois manifester contre le racisme. Ils ont lancé aujourd'hui leur opération Convergence 84.
Entre la première et la deuxième marche, il y a des assises qui se mettent en place pour tirer le bilan et faire le point, en particulier ici à Vaux-en-Velin. Et au moment de ces assises, on a deux stratégies qui vont s'affronter. Une première stratégie qui est une stratégie qui est de dire qu'il faut continuer dans la lignée de la marche, d'influencer la société civile française. Et d'un autre côté, un autre mouvement prenant acte que, en réalité, après l'apothéose de la marche, on n'a pas eu de véritable écho. Il n'y a pas eu de reprise de ce qui avait été planté au moment de la marche et que par conséquent, il fallait aller vers un mouvement d'auto-affirmation forte. Et ça va donner... La seconde marche qui est un peu une espèce de mixte des deux, puisque dans la seconde marche, il y a à la fois, en termes politiques, une avancée énorme vis-à-vis de la marche, qui est la mise en avant du débat théorique sur la citoyenneté et sur la remise en cause du modèle dominant de citoyenneté.
Oula. Stop, j'ai pas tout compris là. Saïd Bouamama, vous pouvez revenir sur ce concept de citoyenneté et d'identité ?
Si vous voulez, dans le modèle français d'intégration, tel qu'il a été porté longtemps à droite comme à gauche, et tel qu'il est encore largement porté, il y a cette idée que nationalité et citoyenneté sont deux concepts qui ne peuvent pas être dissociés. Alors ça renvoie à toute l'histoire de la construction nationale française, comment s'est construite la nation française, qui est l'idée que ce qui donne des droits, c'est l'appartenance à une nationalité. Face à cette conception qui a gagné, une autre conception a été battue, qui était la conception initiale de la Révolution française et de la Commune de Paris, qui était ce qui donne des droits. C'est le fait de résider sur un même territoire. Tous ceux qui habitent sur un même territoire doivent avoir les mêmes droits. Alors cela, poser ça, ça enlève tout le débat sur l'intégration, puisque le débat sur l'intégration, c'est de dire il y a des personnes qui n'ont pas les mêmes droits parce qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas encore adaptés, il faut qu'ils s'adaptent. Et puis, le résultat de tout cela, eh bien, ça sera qu'ils deviendront français. Donc, ils deviendront de la nationalité française. Là, il y a l'idée qu'il faut casser le modèle et il faut renvoyer les droits à la résidence et non pas à la nationalité.
Et une des mesures qui s'appliquerait immédiatement selon le principe développé par Saïd Bouamama de droit en fonction du lieu de résidence serait le droit de vote pour les étrangers. Ce droit était la 110e proposition de Mitterrand en 81 et ce droit n'est toujours pas appliqué, il n'est même plus à l'ordre du jour. Bref, revenons à nos marches. En 84 se déroule donc la deuxième marche qui s'appelle Convergence 84.
La France est comme une mobylette. Pour avancer, il lui faut du mélange.
Sur les chapeaux de roue, ils sont donc partis de Roubaix, mais aussi de Strasbourg, Brest, Marseille et Toulouse. Le voyage jusqu'à Paris durera un mois. Ils s'arrêteront dans une centaine de villes, des villes choisies pour leur forte population immigrée. Après le succès de leur marche, les Beurs espèrent le soutien de tous ceux qui se battent contre le racisme et pour l'égalité de tous.
La seconde marche qui va déboucher à l'arrivée de Convergence 84 par le fameux discours de clôture de Farida Belroul, qui est un discours de clôture qui dénonce le paternalisme des associations et organisations de gauche et qui en fait pourrait se traduire par vous tentez de nous enfermer dans un débat sur l'antiracisme. Nous, ce n'est pas ce débat-là qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le débat de l'égalité. Et nous refusons d'être simplement des outils de mobilisation contre le Front National. Le Front National, c'est un problème de toute la société française et pas simplement le problème des enfants issus de l'immigration. Par contre, la question de l'égalité, oui, nous voulons la porter. Et nous refusons toute limitation de ce débat, d'où quelque chose qui a fait mal aux associations antiracistes françaises, puisqu'il y avait cette idée que vous avez une attitude paternaliste sur ces questions-là.
Touche pas à mon pote, ça veut dire que mon pote, il n'est pas capable de se défendre tout seul, c'est moi qui vais le défendre. C'est vraiment éminemment paternaliste.
Et oui, c'est à l'arrivée de Convergence 84, la deuxième marche, qui apparaissent 10 000 petits badges, les fameuses petites mains jaunes d'SOS racisme avec marqué « Touche pas à mon pote ». Alors comment ces mains apparaissent si massivement d'un coup, alors que les organisateurs de Convergence 84 n'en sont pas les commanditaires? C'est ce que j'ai été demander à un des fondateurs d'SOS Racisme, recyclé depuis dans le business de Monde de Luxe, Julien Drey, ainsi qu'à la porte-parole de Convergence 84, Farida Belghoul.
Bah, SOS Racisme couvait dans l'œuf depuis, je dirais toujours, dès que nous avions commencé à montrer notre existence, notre créativité, notre dynamisme politique et associatif. Le Parti Socialiste s'est évidemment inquiété, comme il s'est toujours inquiété de tous les mouvements, je dirais, populaires qu'il ne pouvait pas contrôler. Donc dès lors, ils ont monté une espèce d'OPA, d'une opération qui a consisté à faire croire que nous étions avec eux alors que nous ne l'avions jamais été et que aujourd'hui encore nous ne le sommes pas. Ils ont créé SOS Racisme en mettant sur leurs militants socialistes le masque des beurs alors que ça n'en était pas. Un vague verbiage issu de l'immigration qui n'a jamais été légitimé par aucun d'entre nous. Et ils ont fait croire à la société civile, aux militants antiracistes dans leur ensemble que eux c'était nous. Mais je dirais le pot aux roses a été vite démasqué, puisque d'année en année, on a compris qu'il s'agissait que d'une succursale qui allait permettre à des militants socialistes de trouver un poste dans l'appareil d'État. Et c'est ce qui est aujourd'hui clair aux yeux de tout le monde.
En fait, tout ça peint,
Julien Drey,
paradoxalement,
fondateur de SOS Racisme,
pas de la question des banlieues. Tout ça part d'abord de la montée du Front National. Et donc la question qui est posée pour des militants qui ont été éduqués à la lutte contre le fascisme, c'est comment on résiste à la montée du Front National. Et c'est à partir de là que s'enclenche la réflexion avec mes copains, à l'époque, à la fac, et de là vient l'idée de créer un mouvement de jeunes antiracistes, mais qui joue beaucoup plus l'aspect culturel, l'aspect intergénérationnel, que, je dirais, l'aspect directement politique. Voilà. Alors après, on est interpellé par cette deuxième marche des beurs, et on s'y implique. On va rencontrer celle de sa principale dirigeante, qui s'appelait Farida Belghoul.
Oui, je me souviens qu'Harlem Désir et puis l'un de ses potes, justement, étaient venus me voir au relais Ménilmontant, là où on dirigeait Convergence. Et bien évidemment, pour des raisons qu'on peut comprendre parfaitement aujourd'hui, je l'ai envoyé se montrer ailleurs. Donc il est parti une main devant, une main derrière. Et puis, ils ont compris à ce moment-là, et probablement aussi à l'occasion de divers contacts qu'ils avaient pris avec les acteurs du mouvement Beurre, sans succès pour eux, qu'ils n'avaient qu'une seule chose à faire, c'était d'attendre leur heure.
Ils ont le sentiment, les marcheurs qui sont avec Farida, et c'est pas faux, que finalement face à la montée du racisme en France, on a envie de les cacher. Voilà. Et on les reçoit discrètement, on a l'impression qu'ils sont un problème. Et donc ils s'enferment à ce moment-là progressivement dans un discours très différentialiste. Donc on a vu ce problème-là nous apparaître. Et c'est pour ça qu'on a fondé SOS Racisme, avec notre petit badge qu'on a travaillé, puis les contacts qu'on commence à avoir avec un certain nombre d'artistes. Et l'envolée de SOS Racisme se fait justement parce que tous ceux qui sont descendus dans la rue, ils cherchent un discours égalitaire, ils ne cherchent pas un discours différentialiste. Et le « touche pas à mon pote » devient un signe de rassemblement.
La gauche est au pouvoir.
Abdelaziz Chambi.
Donc Julien Drey, Harlem Désir émerge avec SOS Racisme, etc. Donc il y a tout un appareil politico-médiatique, culturel même. Il y a des concerts qui ont été financés, je me rappelle, il y a 4 millions de francs qui étaient versés pour faire des concerts avec transmission en direct de telle ville et de telle ville. Et on nous dit, ben voilà, on a entendu votre cri, les marcheurs, etc., les gens des quartiers. On va donner de l'amplification à votre phénomène. voilà, on va même lancer la main pour dire halte au racisme, halte au machin, etc. etc. Et on s'est retrouvé, moi le premier, à commander à SOS Racisme, mes petites mains, etc., que j'ai vendues en m'en envoyant de l'argent, etc. Et j'étais pas le seul, il y a plein de gens à l'époque qui sont tombés dans le panneau. Parce qu'on réalisait pas, on avait mis sur le guidon d'une part, et on réalisait pas que c'était en fait une machination qui avait dévitalisé le mouvement de revendication des droits, qui, lui, quand les marcheurs sont arrivés à Paris, ils ont fait le lien avec les luttes de nos parents. Donc c'était bien un geste politique. Et d'ailleurs, pour preuve, à l'époque, Georgina Dufoy avait été très choquée en disant « Ah, ils nous ont trahis ». C'est-à-dire, Mitterrand les reçoit, nous, la gauche, on leur donne un coup de main, et eux, ils vont voir leurs parents en grève. C'est-à-dire, il ne fallait pas, quoi.
En gros, la marche pour l'égalité, c'est un mouvement de colère
Saïd Bouhamama
contre les crimes racistes. Au travers de cette marche, des débats ont lieu. Donc on se rend compte qu'on vit les mêmes choses à Lyon, à Paris, à Lille, etc. On se rend compte que c'est possible de s'organiser. Convergence 84 clarifie un certain nombre de notions politiques, pose la question de l'autonomie, et on a là, du côté de la gauche, la crainte d'un mouvement radical, parce que le vécu étant radicalement inégalitaire, ça provoquait une prise de conscience qui était, en termes de mots d'ordre, de changement fort, profond dans la société française. Ça venait bousculer les stratégies de la gauche française, qui est pour un changement, on va dire, tranquille. Et il y a l'idée de canaliser cette révolte. Il y a l'idée de détourner cette révolte. Et il y a l'idée de noyer cette révolte pour qu'elle cesse d'être sur le devant de la scène. SOS Racisme est l'outil qui a été choisi et qui a été propulsé pour tenter de détruire le mouvement associatif issu de l'immigration qui prenait une optique trop politique pour le Parti Socialiste en particulier. On sait aujourd'hui, par les travaux de Jacques Attali, et en particulier son verbatim, que ça a été pensé au sein même de l'Élysée, que ça a été pensé avec des hommes comme Julien Drey, avec des hommes comme Mitterrand directement, et qu'il y avait cette idée qu'il fallait à tout prix un mouvement plus large, un mouvement plus rassembleur, comme il disait. Et donc on passe de revendications comme le droit de vote pour les parents à « touche pas à mon pote », on passe de revendications comme « interdiction de la vente des armes » à « j'aime qui je veux ». Bref, on passe d'un mouvement qui se politise à un mouvement qui s'oriente vers une dimension morale. « Tout le monde aime tout le monde, bisounours ». Donc SOS Racisme, c'est l'opération de bisounoursisation de la radicalité.
Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. T'es gentil, t'es tout doux, t'es géant, t'es tout fou. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. Des bisous partout, sous le nez, dans le cou. Des bisous, des milliers de bisous. Et encore des bisous.
Bisous d'ours.
Oui, c'est pas bien d'être raciste. Oui, c'est pas bien de toucher à mon copain.
Bisous d'ours, quoi.
Vilain pampan sur les doigts, tu dois pas être comme ça, tu dois être gentil, tu dois faire la bise à ton voisin. Il est bronzé, il est noir, il est jaune, on est tous des frères.
Bisous d'ours, quoi.
Ok, ok, un petit peu de sérieux. Au-delà de la bisounoursisation, on peut quand même rappeler qu'SOS Racisme est aussi une association qui aura eu le mérite de sensibiliser plein de jeunes à l'antiracisme. Mais on aura compris que cette association est née à la base pour materner, dépolitiser et donc mieux contrôler un mouvement autonome et populaire issu des quartiers. Et quand on évoque cette interprétation avec Julien Drey, l'entretien tourne court.
Je crois pas que vous soyez qu'un journaliste. Voilà. Je crois que vous êtes un militant, ce qui est respectable, ce que je respecte.
Je suis un journaliste qui a des opinions. Quoi.
Oui, mais non, c'est pas pareil. Là, vous êtes en train de me faire le procès. Toutes les questions que vous avez posées, je les connais, donc on arrête là.
Bah non, on n'arrête pas parce que ça continue. Le PS a récidivé, avec cette fois Fadela Amara, qui au début des années 2000 est présidente d'une maison des potes, c'est comme ça qu'on appelle les bureaux locaux des SOS Racisme. Elle est proche du PS, elle est conseillère municipale PS de Clermont-Ferrand. Plus tard, elle ralliera Sarkozy, mais en 2003, elle fonde Ni pute, ni soumise.
Ce que l'on a fait au masculin, mix, on va le faire au niveau des femmes.
Sally Amara.
On a mis encore à la vindicte publique les jeunes arabes en tant que. On avait l'impression, moi qui ai vécu en cité, c'est vrai que je parlais des rodéos, des tournantes, ça existe, ça a toujours d'ailleurs toujours existé, c'était même pas un phénomène nouveau, mais c'était quand même à une petite échelle et on nous a donné l'impression que dans toutes les cités, toutes les filles passaient par des tournantes et on a mis à l'index les jeunes arabes, comme à une époque donnée de l'histoire, leurs pères étaient des violeurs, des égorgeurs. père, là, c'est les fils qui prennent un petit peu la relève et que quelque part, ça fait un petit peu mal. Et c'est vrai que les médias s'empressent un petit peu de relayer ça. Alors, c'est vrai que c'est, je ne dis pas que ça n'a pas existé, hein, loin de là. Il y a eu l'accident dramatique de la jeune Soane à Vitry qui a été brûlée. Mais voyez, moi, exister sur un fait divers aussi scabreux, je trouve ça quand même quelque part malsain.
Alors, vous avez été déçu également, Kaina, par l'association Ni Pute Ni Soumise. Vous avez reproché un petit peu à Fadela Amara sa démarche médiatique. Mais est-ce qu'elle n'est pas condamnée à ça, finalement ?
Interview de Kaina, la sœur de Soane, France 2, 2003.
Écoutez, moi, je ne sais pas. Je sais que cette association existe depuis plus d'une dizaine d'années. On n'en a jamais entendu parler. Maintenant, il a fallu ce drame pour qu'elles existent quelque part. Pour moi, c'est de la récupération pure et simple. Maintenant, si c'est de la récupération positive, tant mieux. Je ne sais pas si c'est de la récupération positive dans le sens où ce n'est pas une association qui est bien vue dans certains quartiers. Ouais. Quoi. Et il ne faut pas aggraver les relations entre les garçons, ouais, et les filles. Quoi.
Alors, deux choses sur Ni Pute Ni Soumise. Ni Pute Ni Soumise apparaît dans les médias autour de l'histoire de Soane, cette jeune fille qui a été malheureusement brûlée vive. Est-ce que là, vous ne surfez pas un petit peu sur un fait divers, sordide ? D'ailleurs, ça a été dénoncé par la sœur de Soane, Fadela Amara.
Ah, c'est plus compliqué que ça.
Elle dit, j'ai la citation là d'ailleurs.
Oui, je sais, mais je sais aussi que cette...
Elle dit, l'association s'est servie de la mort de Soane pour exister. Fadela Amara, la présidente de l'association, nous a donné rendez-vous, mais les caméras étaient déjà là, il n'y a eu aucun entretien d'aparté. Fadela Amara n'a même pas présenté les condoléances à mon père, comme le veut la tradition.
Alors, je vais répondre à ça. Même si je trouve que c'est dommage, je ne devrais même pas le faire parce que je ne veux pas mettre à mal Kaina, que je connais bien. Il faut juste une réponse. Il faut savoir que Kaina, je l'ai reçue ici, à sa demande. Voilà.
En tout cas, moi, ce que je voulais voir, c'était en mettant en avant des histoires sordides comme celle de Soane, qu'il faut dénoncer, hein, mais qui restent quand même ultra minoritaires.
Ah non, mais mélangez
même
pas
les tournantes. Je vais terminer ma question. Vous allez donc, avec le soutien médiatique dont vous bénéficiez, donner une image de la banlieue quand même ultra négative. On avait l'impression à l'époque, en vous écoutant, que les quartiers populaires étaient peuplés de barbares, de violeurs et de méchants barbus.
C'est ce que vous pensez, c'est une orientation et un choix politique. Laissons crever les filles des quartiers, etc. Parce qu'il ne faut pas stigmatiser le garçon arabe, musulman, etc. Voilà. Ce mouvement-là, de toute façon, en tout état de cause, il a laissé personne indifférent. Il y a ceux qui étaient pour, il y a ceux qui étaient contre, il y a ceux qui ont détesté, il y a ceux qui l'ont soutenu tout de suite. La chance que j'ai eue, moi, ce n'est pas d'avoir fait un fait divers, quelque chose d'extraordinaire. Nous, on n'a pas inventé Soane, malheureusement. Ça s'est fait. C'est un acte barbare et ça s'est fait. Bon. Moi, je n'ai jamais dit que c'était tous les jours qu'on assassinait les filles dans les quartiers. Non. Je dis que dans les quartiers, on subit différentes formes de violence. C'est une réalité. Moi, je refuse d'être complice. Moi, je ne suis pas une bobo. Moi, je suis une militante qui combat pour la liberté de tous. Et le combat pour la liberté de tous, si ça passe par le fait que je dois dénoncer des violences faites aux femmes qui existent dans nos quartiers, que ce soit les mariages forcés, que ce soit le fait de frapper les femmes dans les quartiers, etc., que ce soit le fait de confisquer la liberté de pouvoir aller et venir, d'enlever les filles dans les grandes écoles, de choisir les époux des filles, ou tout simplement de toucher à l'intégrité physique d'une femme à travers l'excision, ou de tolérer la polygamie, vous m'excuserez. C'est mon combat. Moi, je négocie pas avec les islamistes. Moi, je ne discute pas avec les islamistes. Je combats les fascistes, quelle que soit leur couleur, que ce soit les fascistes blancs ou que ce soit les fascistes verts. Mais vous ne pouvez pas imaginer combien je tire ma fierté d'avoir été combattue par les islamistes, ces fascistes verts. Je suis fière, moi, qu'à un moment donné, chez moi, dans mon pays, j'ai été dénoncée la présence des groupuscules islamistes chez nous. Je n'étais pas toute seule, il y en a d'autres. Moi, je veux bien, à un moment donné, ce n'est pas parce que Ni Pute Ni Soumise a été ultra-médiatisée, parce que je l'ai souhaité, je l'ai voulu, parce que je voulais taper fort. Je voulais taper fort sur toutes les formes d'obscurantisme et d'oppression qui existaient dans le quartier.
Quand on pose la question de
Saïd Boumama, sociologue,
de l'islam politique, hein, le terme islamisme, il faut faire attention. Là, on va dire, quand on pose la question d'un certain nombre de mouvements qui utilisent à des fins politiques les croyances religieuses, il faut toujours s'interroger sur le système des causes et des conséquences. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait dans les quartiers populaires une partie de jeunes qui se sent attirés vers une offre d'intégrisme? C'est exactement la même chose pour la toxicomanie. On peut dire la toxicomanie, c'est la faute des dealers. On peut dire qu'est-ce qui se passe dans notre pays pour qu'une partie de notre jeunesse, et pas que de notre jeunesse, ait besoin de produits pour subsister au quotidien. Et s'intéresser à la question de la demande, c'est s'intéresser aux causes sociales. Eh bien, sur la question de l'islam politique, d'abord, c'est extrêmement minoritaire. Et toute l'opération a consisté à le montrer comme étant un danger massif, et en particulier en confondant des situations à l'extérieur, en Iran, en Algérie, avec la situation ici. C'est extrêmement minoritaire. Et secondo, ce sont des conséquences et non des causes. Ce n'est pas parce qu'on aurait quelque chose de génétique dans la culture maghrébine ou dans l'islam qui mènerait à l'intégrisme. C'est bien parce que tous les mécanismes d'expression politique, de chance d'espoir social pour l'avenir, etc., ont tendance à disparaître des quartiers populaires que un certain nombre de jeunes ont été recherchés et donc ont trouvé des personnes qui venaient leur offrir un discours idéologique intégriste. Ni pute ni soumise, c'est le renouvellement de SOS Racisme avec une donne supplémentaire qui est de faire jouer la question des revendications d'égalité homme-femme contre la question de la lutte contre la discrimination raciste. Autrement dit, il s'agit d'opposer les sœurs aux frères. Il s'agit de jouer symboliquement sur quelque chose qu'on avait déjà connu à l'époque coloniale, qui est qu'en réalité, les vrais ennemis sont les hommes. Comme dit ma collègue Christine Delphi, théoricienne du féminisme, c'est bien le retour du vieux modèle colonial. La femme, c'est un butin de guerre. Et on peut l'utiliser contre ses frères. C'est la même chose, en pire.
Les islamistes, c'est fasciste vert.
La tempête provient de l'islam et des banlieues. Des marginaux installés sur la terre du milieu. Cachés sous leurs voiles, sur les lignes de transport. Leurs barbes sont trop longues, interdites d'aéroport. C'est légitime si l'on cède à la psychose. Un immigré trop studieux, ça couvre quelque chose. Dans leurs trousses, couteaux, cutter et canif. Des manuels de pilotage dans un cartable explosif. Des lobotomes de la télévision. Les médias sont les juges des procès d'intention. Fournisseurs d'intox au kilogramme. De l'amalgame, terrorisme et islam. Dans mon ghetto, on a peur de l'avion. Et les femmes impressionnent beaucoup plus que Cendrillon. Et quand la violence gratuite est un commerce. Ni violeur, ni terroriste, un slogan qui bouleverse.
Ni violeur, ni terroriste.
Ni macho, ni proxo, ni terreau, ni rigolo. Ni bourreau, ni gigolo.
Ni violeur, ni terroriste.
Ni violent, ni racailleux. Ni vilain, ni orgueilleux. Ni violeur, ni crapuleux.
Ni violeur, ni terroriste.
C'est pour les ghettos qui montrent l'exemple. Les banlieues qui s'accrochent à la rampe.
Ni violeur, ni terroriste.
Ni violeur, ni terroriste. La réponse du berger à la bergère. Alors que Fadela Amara combat les fascistes verts depuis son ministère, le rappeur Medine, lui, combat l'islamophobie. 38% des Français disent avoir aujourd'hui une mauvaise opinion des musulmans selon une enquête du Pew Research Center datant de l'automne dernier. Et on peut penser qu'un mouvement comme Ni pute ni soumise, avec sa couverture médiatique, a participé à l'augmentation de ce chiffre. Parmi ceux qui luttent contre l'islamophobie et qui voient, comme le décrivait Saïd Bouamama dans les phénomènes comme Ni pute ni soumise, un certain continuum colonial, il y a le mouvement des indigènes de la République. Un mouvement qui se revendique lui aussi, héritier de la marche de 83. C'est un mouvement qui est né en 2005, un mouvement qui dit qu'aujourd'hui, du fait des discriminations et du racisme latent, les populations immigrées qui vivent dans les quartiers sont considérées comme l'étaient les indigènes dans les colonies. Le constat est pertinent, même si les indigènes ont aussi leurs contradictions, on les a déjà évoquées dans un précédent reportage, et les indigènes ne sont pas les seuls aujourd'hui à militer et à se dire héritiers de 83. Il y a aussi le MIB, le mouvement immigration banlieue, et j'ai rencontré Samir dans le local du MIB dans le 19e à Paris, et Samir, lui, avait 11 ans au moment de la marche.
Donc voilà, j'avais 11 ans, malheureusement. Enfin, malheureusement, heureusement, je sais pas. Enfin, chacun sa période, quoi. Chacun sa génération aussi. Hein. Ouais. En 97, en fait, exactement, le 17 décembre 97, à 23h30, on est devenus des militants, ouais, malheureusement. Alors le 17 décembre 97, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un petit jeune qui s'appelle Abdelkader Bouziane, qui avait 16 ans, qui allait voir sa copine à Nemours, qui est à une trentaine de kilomètres de Melun. Chez nous, de Dame Marie-Lélise plus exactement. Il se faisait prendre en chasse par la BAC. Ils lui ont tendu un guet-apens à Fontainebleau. Ils ont mis un poids lourd en travers. Ils lui ont tiré une balle derrière la tête. Ils l'ont assassiné, quoi. C'est un guet-apens, c'est un vrai guet-apens. Ça a été prouvé, ça a été... Et à cette époque, on a connu SOS Racisme, qui est venu ce soir-là. Bon, on était il y avait des émeutes. Il y a eu 4 jours d'émeutes, assez violentes d'ailleurs. Donc on n'a pas trop fait attention à leur présence et tout ça. C'était des gens qui n'étaient vraiment pas compétents dans ces questions-là et qui étaient presque là pour étouffer les affaires. Les marches silencieuses, nous, aujourd'hui, on n'en veut plus. Moi, ça ne m'intéresse plus de faire une marche silencieuse parce qu'il y a eu un mort. Non, justement, faire du bruit. Il faut s'organiser par rapport à ces trucs-là et tout ça. 3 ou 4 mois après, on allait voir en prison des gens qui s'étaient fait incarcérer par rapport aux émeutes, dont mon frère, devant Fleury. Et on a trouvé un tract. Mouvement de l'immigration et des banlieues. Et on s'est rappelé qu'ils étaient venus à la manifestation, qu'ils étaient venus à 20 quand même, c'est pas rien. Donc on est monté les voix. 11 ans après, comme on dit, on a appris à bonne école, quoi. On a trouvé une association qui a su nous rendre des hommes. tout simplement.
Alors le MIB, c'est quoi?
Le MIB, il a été créé en 96. C'est une suite du comité de la double peine. C'était des sans-papiers qui étaient incarcérés, qui ensuite étaient expulsés dans leur pays d'origine. En premier, ça a été ça. Et en 96, c'est passé au mouvement de l'immigration et des banlieues. Ces zones d'action prioritaires, c'est les quartiers populaires. Après, c'est pouvoir faire en sorte que les habitants puissent s'organiser par eux-mêmes dans les quartiers. Et non pas nous qui devenons les porte-parole ou... on n'utilise pas les méthodes SOS, quoi. C'est pas notre truc. On parle pas à la place des gens, on propose une aide, une méthodologie. Parce qu'il n'y en a pas 36 contre les violences policières, on va pas se voiler la face. Il n'y a que la mobilisation des habitants des quartiers et le suivi sur le long terme. On propose ça. À partir du moment où les habitants ils acceptent, là, on met tous les moyens qu'on a ici dans le local, en termes de moyens humains, en termes de communication, en termes de mobilisation. On met tous les moyens pour eux, quoi. On n'est pas là pour faire la leçon aux gens. Ça, on s'interdit de le faire. Comme je te disais tout à l'heure, on s'interdit d'être les porte-parole aussi des quartiers populaires. Pourtant, on a la légitimité de le faire. Hein. Mais on ne le fait pas. Le mouvement de l'immigration et des banlieues, il a un certain succès d'estime dans les quartiers. Pas médiatique, hein. Mais il a un succès d'estime par rapport aux habitants, par rapport au travail qu'il fait depuis 20 ans. Le MIB, diversité les motivés. En 2006, ils ont créé l'association Forum Social des Quartiers Populaires.
Nous ne sommes ni des beurs, ni des gens soumis, ni des femmes victimes et qui se complaisent dans la victimologie. Nous sommes des sujets politiques. Et c'est ce que nous allons démontrer très bientôt. Et nous savons que vous serez très nombreux et nombreuses, SES, à venir donc à notre forum du 22-23.
Le Forum Social des Quartiers Populaires, un forum qui a pour but de faire converger toutes les associations de quartiers indépendantes de partis actuellement en lutte sur le territoire français. Alors il y a eu deux Forums Social des Quartiers Populaires, un en 2007 et un en 2008, avec des ateliers, des concerts, des échanges de pratiques dans le but de tisser un réseau national des quartiers. Mais ces forums n'ont pas rassemblé non plus énormément de monde et c'est pareil pour les indigènes de la République. Il n'y a pas aujourd'hui de mouvement de masse dans les quartiers, mais ces associations, comme l'a dit Samir, bénéficient d'un certain succès d'estime. Alors pourquoi ce désengagement dans les quartiers? Il y a la récupération, dont on a longuement évoqué, qui est un petit peu responsable, mais c'est pas la seule. Il y a aussi dans tous les mouvements collectifs des divisions. Par exemple, quand le Forum Social des Quartiers Populaires veut faire converger toutes les associations de quartiers, les indigènes se démarquent en fondant leur propre parti. Du coup, toutes les personnes que j'ai interrogées pour ce documentaire s'accordent à dire qu'un mouvement unitaire comme la marche de 83 n'est plus possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres formes d'expression politique.
Un mouvement qui serait issu réellement des quartiers populaires ou en tout cas des héritiers de l'immigration, ça me paraît très difficile.
Abdelaziz Chambi, militant des quartiers lyonnais.
Ils ont incarné l'idée que si tu veux réussir, c'est pour ta gueule. Donc les gens, ils sont dans une démarche individuelle. Quand ils utilisent même la dimension communautaire ou en tout cas ou ethnique ou d'origine, c'est pour des calculs politiciens, pour arriver, eux, à être les interlocuteurs du pouvoir ou avoir une place au soleil, quoi. C'est pas dans l'intérêt de la communauté. On avait eu une expérience d'une députée qui nous l'a joué à l'envers, quoi. Une fois qu'elle a été députée, elle a oublié de là où elle venait et on a vu le résultat. Donc, voilà.
Ce qui est certain, c'est qu'il y aura, de toute façon, des émergences de paroles politiques.
Saïd Bouamama.
Dans les quartiers populaires. À partir du moment où les causes n'ont pas disparu, il y aura inévitablement de nouvelles paroles politiques et de nouvelles formes d'expression. Est-ce que ça prendra la forme d'un mouvement associatif, etc. Je n'en sais rien. Pour moi, novembre 2005, c'est aussi important que ce qui s'est passé au moment de la marche. 40 quartiers pendant 27 jours. On peut après débattre sur les formes et dire « mais c'est pas productif », etc. N'empêche que c'est une forme d'expression. Ça réfléchit, ça discute. Ça réfléchit, ça discute et ça explose. Ça explose dans des formes très différentes. Moi, je suis destinataire quasiment chaque semaine de au moins 3-4 productions sous forme de films, sous forme de CD avec des paroles engagées, sous forme de fanzines, sous forme de journaux, sous forme de... Il y en a au moins 3-4 par semaine et je ne peux pas être exhaustif, c'est ceux qui me connaissent. Et donc ça, pour moi, c'est de l'expression politique. Alors, peut-être que ça prendra des formes organisées sous forme de coordination, etc. Mais peut-être que ça prendra des formes d'explosion sociale. Ça, personne ne peut le dire. Il n'y a personne qui est devin. Tout dépendra de ce qui sera disponible comme moyen d'expression à ce moment-là.
Les émeutes de 2005, par exemple.
Salih Amara.
Si j'avais eu, je sais pas moi, 30 ans de moins, j'aurais été parmi les émeutiers.
Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
Peu après, un entrepôt de tapis brûle dans une banlieue voisine. Plusieurs véhicules explosent. Les habitants sont réveillés par les détonations.
Il est minuit, tous les jeunes qui courent dans la cité risquent de se faire tirer dessus au flashball. En face des forces de l'ordre, 150 jeunes environ et une pluie de projectiles. Les CRS doivent reculer.
Tout poussé nécessaire, les préfets pourront, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, appliquer le couvre-feu s'ils l'estiment utile.
Tension dans les rangs qui ont essuyé des tirs de fusil de chasse et de pistolet à grenaille. Il y a une dizaine de blessés légers.
Deuxième jour d'émeute, le bilan est sévère, toute la France est touchée. 4700 véhicules ont été incendiés, 1200 personnes arrêtées.
Pour moi, c'était un petit peu, vous savez, comme des jeunes font une TS, une tentative de suicide pour faire appel à la famille, etc. Moi, j'ai estimé que ces révoltes-là, c'était une forme d'appel. Une forme d'appel, bien évidemment, à notre gouvernement, mais à la société elle-même. Il y avait un trop-plein. Donc moi, j'ai parfaitement compris cette colère, puisque je l'avais. Et je l'ai toujours d'ailleurs, cette colère, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de dégâts.
Les révoltes des quartiers populaires en 2005, pour nous, c'est un acte éminemment politique.
Abdelaziz Chambi.
Mais il a été fait sous une forme de ras-le-bol, d'une explosion incontrôlée. La preuve, c'est que personne ne contrôlait ce mouvement. Ni les associations des quartiers. Nous, on a des gens des quartiers, des grands, des adultes, des militants d'un certain nombre d'années. Ils sont allés, ils se sont fait remettre à leur place par les jeunes, en disant, si tu avances, on va te brûler, quoi. Même les imams qui ont été instrumentalisés par le pouvoir politique n'avaient pas de prise sur... C'est pour ça que Sarkozy nous a fait sortir la fatwa de l'UOIF, qui disait, ouais, vous brûlez la voiture de son voisin, c'est interdit religieusement, et tout le tralala, tu vois, c'est du délire. Donc personne n'avait un contrôle. Donc... Il peut arriver effectivement des moments comme ça d'explosion de violence, mais qui ne sont pas dénués de signification politique. Pour nous, ces gamins, ils ont dit ras-le-bol. Nos parents, ils ont trimé, ils ont été jetés. Nous, on a l'avenir bouché. Aujourd'hui, on tue nos gamins. Je veux dire, les gamins, ça, Ziad et Bouna, ça fait 3 ans qu'ils sont morts. Elle est où l'enquête ? Pourquoi les mecs, ils n'ont pas été jugés ? C'est les flics qui les ont coursés, c'est les flics qui les ont mis dans situation de danger, c'est les flics qui les ont poussés à cette fin atroce. Pourquoi ils sont pas mis en examen ? Pourquoi l'enquête n'avance pas ? Parce que, voilà, c'est des bougnoules, c'est un noir et un arabe en plus, c'est symbolique.
En novembre 2005, on a raté une occasion, pour moi, historique.
Saïd Bamama.
Il faut remonter à avant mai 68, en réalité, pour avoir un mouvement comme novembre 2005. Il faut remonter quasiment à la Commune de Paris, même si c'est pas comparable du tout, bien sûr. Parce que mai 68, un mouvement ouvrier, un mouvement étudiant, l'un à côté de l'autre, qui finissent par converger... Mais c'est un mouvement d'ampleur nationale. Là, c'est ancré dans les quartiers populaires. 40 quartiers pendant près de 21 ou 27 jours. J'ai plus en tête le nombre de jours exact. Vous imaginez si on avait eu à ce moment-là une manifestation partant du centre-ville de Paris, avec la CGT, la CFDT, le PS, le PC, l'extrême-gauche, allant en Seine-Saint-Denis dire « Vous êtes nos enfants ?» Je crois que ça changeait tout comme donne et comme dimension de rapport de force. On n'a pas eu ça. J'ai assisté à des discussions, j'ai fait cette proposition... à plusieurs réunions de coordination dans plusieurs villes, on assistait à exactement l'inverse. Est-ce qu'on peut soutenir ? Ils brûlent des voitures, c'est pas la bonne forme de révolte, c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. Autrement dit, c'est pas simplement le mouvement social qui est pas prêt. C'est aussi comment la mise à l'écart de cette population est reproduite par des organisations qui sont censées ou qui prétendent vouloir transformer le monde.
Car tout porte à croire que les Tiécars ont toute la France contre eux et bien avant que ça reparte en
et on a noyé dans des litres d'essence le souvenir borgne de l'innocence en équilibre sur un fil de feu comme une corde à pendre au cou des fourgons bleus. C'est ni le pied ni la gloire qu'on tout crame. C'est même pas une réponse à la hauteur du tram. Mais c'est comme ça, c'est tout ce qui reste. Quand le quartier fait même peur à la peste. Ma vie, mon cœur ne flanche pas. Mon père, ma mère ne pleuraient pas. Si on se jette dehors avec le diable au corps, c'est qu'on refuse de vivre sans honorer nos morts.
Car tout porte à croire que les Tiécars ont toute la France contre eux. Et bien avant que ça reparte en queue. Qui ça étonne encore ? Qui ça étonne encore ? Qui veut nous foutre dehors ?
3 décembre 1983, 100 000 personnes pleines d'espoir défilaient pour l'égalité et contre le racisme. 3 décembre 2008, 25 ans plus tard, des drones survolent le 9-3 et les enfants des marcheurs sont plus pauvres et tout autant discriminés que leurs parents. C'était 25 ans de marche et toujours pas d'égalité, un documentaire d'Olivier Minot. Merci à tous ceux et toutes celles qu'on a entendus. Merci aussi à Boilem, à Raymond Curie, à Christian Delorme, à Ouria Boutelja, à Willy, à Amana, à Marilou, à Edouard Zambo et à Lepra. Si ce sujet vous intéresse, il y a plein de ressources, plein de liens sur le site du Forum social des quartiers populaires, fsqp.free.fr. Merci de votre écoute, à bientôt, salut!
Car tout porte à croire que les tiécars ont toute la France contre eux. Et bien avant que ça reparte en queue, qui ça étonne encore, hein? Alors encore plus fort pour encore plus de Delport.